I've seen things you people wouldn't believe.
Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan.
Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de George Lucas, le célèbre créateur de Star Wars. Son parcours est assez atypique, car il a la particularité d'être fortement lié à celui de deux autres cinéastes fameux, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg. En fait, on peut dire que George Lucas a eu deux vies, celle d'avant Star Wars, qu'il a partagée avec Coppola, et celle d'après Star Wars, où il s'est davantage rapproché de Spielberg. C'est pourquoi cette émission sera elle-même divisée en deux parties, correspondant à chacune de ces deux périodes. Ces deux duos sont assez différents, puisque le premier, formé par Coppola et Lucas, ressemble un peu à une relation de maître à élève. Il faut savoir qu'ils ont 5 ans d'écart. Tandis que le second, formé par Lucas et Spielberg, qui n'ont que 2 ans d'écart, s'apparente davantage à celle de deux copains, deux gamins presque, en comparaison de leur aîné. Mais prenons les choses dans l'ordre, tout commence au début des années 60, avec le plus âgé des trois, Francis Ford Coppola. Coppola et Lucas ont un point en commun. Ils sont tous les deux été formés au cinéma de la même manière, en passant par une école de cinéma. Coppola va rapidement devenir célèbre, car il sera le premier étudiant de ce type d'école à effectivement réussir à devenir réalisateur. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'était assez exceptionnel. Il faut dire que pour y parvenir, il était prêt à tout. Ses premiers travaux sont des films érotiques et des montages de films étrangers qu'il devait rendre exploitables aux États-Unis. Rien de bien glorieux donc, mais ça lui permettra ensuite d'être recruté par Roger Corman, un producteur spécialisé dans les séries B fauchées, qui avait un véritable don pour dénicher les futurs talents. À force de bien travailler pour lui sur tout un tas de films, il aura lui aussi droit à sa propre série B fauchée, un petit film d'horreur inspiré de Psychose et intitulé Demencia 13, dont voici un extrait de la bande-annonce. An attempted escape. A meeting with terror. Alors ce premier film n'est pas très intéressant, mais peu importe. L'objectif était atteint, le voilà devenu réalisateur. A partir de là, il se fera remarquer par les studios, et on finira par lui confier la réalisation de son premier film à gros budget, la comédie musicale La Vallée du Bonheur. C'est un film totalement désuet, qui a très mal vieilli, mais qui lui permettra de faire une rencontre décisive. George Lucas, lui, se fera tout de suite remarquer dans son école de cinéma, avec ses premiers courts-métrages. Il se distingue particulièrement de ses petits camarades, par son talent pour la photographie et le montage. C'est grâce à ça qu'il va gagner des prix et des bourses qui lui donneront le droit de partir observer des tournages de vrais films à Hollywood. Et c'est comme ça qu'il se retrouvera, un beau jour, sur le plateau de la Vallée du Bonheur de notre ami Coppola, et qu'ils deviendront amis. Nous sommes alors en 1968, une année très importante comme chacun sait. Aux États-Unis, c'est l'apogée des grands mouvements sociaux contestataires et de la contre-culture. Alors évidemment, la comédie musicale que tourne Coppola est en total décalage avec l'état d'esprit de la jeunesse de l'époque. Je vous laisse écouter sa musique pour vous en convaincre.
Look, look to the rainbow.
That's Finian's rainbow. Look to Fred Astaire.
Look, look, look to the rainbow. Follow it over the hill and stream.
Coppola se rend bien compte qu'il y a un petit problème quelque part. Il décide alors, pour son projet suivant, de partir à l'aventure. Avec peu de moyens et beaucoup d'improvisation, il va sur les routes, pour filmer un road movie intitulé « Les gens de la pluie ». Tout d'un coup, il se retrouve en osmose parfaite avec l'esprit du nouveau cinéma américain, car il adopte exactement la même méthode que Dennis Hopper et Peter Fonda, qui tournent au même moment « Easy Rider », le film de Motard qui marque l'avènement du nouvel Hollywood. Lucas va suivre Coppola sur ce tournage, mais ils ne vont pas se contenter de tourner un film dans l'air du temps. Ce sont des ambitieux. Ils lancent également leur propre société de production, qu'ils nommeront American Zoetrope, pour pouvoir créer leur film librement. Coppola en est le patron, Lucas le numéro 2, et ils sont entourés de toute une bande d'artistes. Ils s'installent à San Francisco pour être loin des grands studios de Los Angeles. Mais en réalité, ils ne sont pas tout à fait libres. Ils sont en partenariat avec le grand studio Warner Bros., qui doit se charger de la distribution des films en salle et qui contribue au financement des futurs projets. Le premier d'entre eux sera le premier film de George Lucas, THX 1138, qui mettra dès le début leur rêve en péril.
Everything will be all right. THX 1138.
THX 1138 est un film dystopique à la 1984 de George Orwell. Il montre une société futuriste totalitaire dans laquelle les individus sont privés de leur personnalité et de leur liberté. Les relations sexuelles y sont également interdites, ce qui va conduire le héros en prison. Le résultat est très beau mais pas très gai. Alors quand Lucas va le présenter aux dirigeants de Warner Bros., ce sera la douche froide. Ils vont le détester et couper dedans sans demander son avis au réalisateur. Pour le pauvre Lucas, ce sera une expérience traumatisante. C'est son premier film, il s'est battu pour le tourner avec peu de moyens, et subitement, on lui impose des coupes arbitraires, sans logique, uniquement motivées par des considérations marketing. Il en tire la conclusion que les dirigeants du studio ne comprennent rien à ce qu'il a fait, et qu'il devra se débrouiller pour échapper à leur emprise à l'avenir. Mais cela va prendre un peu de temps. Et en attendant, il faut sauver les meubles et renflouer American Zoetrope, qui se retrouve déjà en pleine banqueroute. C'est alors Coppola qui va se mouiller et accepter une commande à contre-cœur. En effet, on lui propose d'adapter un livre qui n'intéresse guère, un roman de Mario Puzo intitulé Le Parrain.
On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise, vous avez repoussé mon amitié. Parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur.
Je ne voulais pas avoir d'ennui.
Oh, je comprends. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne petite vie tranquille, la police, les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice. » Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain?
Coppola va améliorer l'histoire, mettre sur pied l'un des plus beaux castings jamais rassemblés et recruter un chef opérateur particulièrement inspiré. Il réalise alors un immense chef-d'œuvre qui deviendra rien de moins que le film le plus rentable de l'histoire du cinéma en 1972. Il devient alors très puissant à Hollywood, ce qui va lui permettre de protéger son ami George Lucas, qui va de nouveau se retrouver en conflit avec un studio pour son deuxième film, American Graffiti. Alors là, on peut dire que l'embrouille n'a absolument aucun sens. Parce qu'autant son premier film THX avait peu de chances de plaire, autant le deuxième avait tout pour lui. C'est une histoire sympathique, qui montre des jeunes en train de draguer des filles et de faire des courses de voitures au début des années 60. L'humeur est bonne et la bande-son est remplie de musique rock. Mais cela ne suffira pas au studio Universal, qui lui demandera lui aussi de faire des coupes. Heureusement, cette fois, Coppola pourra intervenir et le défendre. Et ce ne sera pas inutile, puisque le film sera un carton à sa sortie, et Lucas connaîtra enfin son premier succès. Cette seconde mésaventure a confirmé son idée selon laquelle les patrons de studio ne connaissent rien au cinéma. Il n'aura alors plus qu'une seule idée en tête, devenir véritablement indépendant. Et pour cela, il va se lancer dans un projet complètement fou, totalement irréalisable et auquel personne ne va rien comprendre. On pourrait donc se dire qu'il est mal parti, et pourtant l'histoire va en décider autrement. Mais avant de poursuivre l'histoire trépidante du jeune Lucas, revenons au troisième personnage de cette histoire qu'il ne faudrait pas oublier. En effet, pendant que nos deux amis barbus se battent pour faire leur film, un autre jeune homme est en train de monter à Hollywood. Il s'appelle Steven Spielberg, il a 2 ans de moins que Lucas et 7 ans de moins que Coppola. Et lui, contrairement à eux, n'a jamais mis les pieds dans une école de cinéma. Les galères, il ne les a pas non plus connues, puisqu'il a débuté directement dans le studio Universal, qu'il a intégré via des petits boulots. Très vite, on lui donne sa chance, en lui confiant la réalisation d'épisodes de séries télé. Et il s'en sort tellement bien qu'il enchaîne rapidement avec un téléfilm, Duel, sur un camion fou qui traque un automobiliste pendant plus d'une heure. Ce premier essai aura tellement de succès qu'on décidera de le rallonger afin d'en obtenir une version cinéma. Il enchaîne ensuite avec son premier vrai long métrage, Sugarland Express, un nouveau road movie qui sera encensé par la critique. On l'aura compris, grâce à la chance et au talent, ses débuts sont brillants et sans grande difficulté. En fait, tout lui réussissait parfaitement jusqu'à ce qu'il décide pour son troisième projet d'adapter un roman de Peter Benchley intitulé Jaws.
Ça, c'est un 6 mètres.
7 mètres qui fait 3 tonnes bien pesées.
Il nous faudrait un plus gros bateau, non ?
Non.
Il nous faut de l'huile de coude. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Par ici, Martin, j'ai besoin de vous.
Nous sommes alors en 1975. Avec les dents de la mer, Spielberg va plonger tête baissée et sans savoir dans la plus grande galère de sa vie. Et cela pour une raison simple. Contrairement à ce qu'auraient fait la plupart des réalisateurs de l'époque, il décide non pas de tourner son film dans les grands bassins de son confortable studio, mais de le filmer en décor naturel, c'est-à-dire en pleine mer. Un choix totalement inconscient sur le plan logistique, mais qui sera sans doute le meilleur de toute sa vie. On embarque alors dans le premier tournage catastrophe de cette histoire, et vous le verrez, ce ne sera pas le dernier, car chacun aura le sien. Le scénario sera sans cesse réécrit, la météo sera mauvaise, les images en mer très complexes à obtenir, et bien sûr le requin mécanique ne fonctionnera pas. Un tournage absolument infernal qui aurait dû conduire au pire. Mais finalement, surprise, il connaîtra un énorme triomphe au box-office, dépassant même celui du Parrain. Un retournement de situation spectaculaire que George Lucas va lui aussi connaître 2 ans plus tard, avec son étrange projet intitulé La Guerre des Étoiles.
Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
Here they come. Coming in too fast!
The story of a boy, a girl, and a universe.
Pour ce film, Lucas imagine tout un univers de science-fiction qui sera extrêmement complexe à matérialiser, surtout avec le peu de budget dont il dispose. Mais par chance, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Faire voler des vaisseaux spatiaux, imaginer des sabres laser et faire parler des robots, c'est très bien sur le papier, mais à l'écran c'est une autre affaire, surtout dans les années 70. Pour y parvenir, il a créé une société, ILM, qui a passé 1 an à plancher sur les effets spéciaux et qui a carrément dû fabriquer une nouvelle caméra capable de les filmer. Nous voilà alors partis pour le deuxième tournage catastrophe, celui de Lucas. Il va d'abord entrer en conflit avec son équipe technique, il aura droit lui aussi à des robots défectueux, une grosse tempête de sable ravagera son plateau lors du tournage en Tunisie et il subira une énorme pression financière de la part du studio producteur. Face à l'accumulation des difficultés, il finira même par faire une crise d'hypertension. Mais là encore, il y aura un renversement de situation inimaginable, car à son tour, le film explosera le box-office en surpassant les dents de la mer. Ce succès aura une importance déterminante, car ce sera l'occasion pour lui de prendre enfin sa revanche sur les studios. Après tous ses déboires, il pourra enfin réaliser ses rêves, pour le meilleur et pour le pire. Si vous voulez connaître la suite de l'aventure, je vous invite à écouter la seconde partie de cette émission qui sera diffusée le jeudi 6 mai à 7h30, 8h30 et 12h30 sur 90FM. Je vous raconterai comment Francis est devenu fou aux Philippines, à quel moment George a placé son avenir entre les mains d'une petite marionnette verte et pourquoi Steven fut le seul à échapper à la dysenterie en Tunisie. A bientôt sur Radio B pour le 3e numéro de Parlons Travelling et Gros Plan.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis